On va s'intéresser maintenant à ce premier conseil des ministres qui s'est déroulé ce matin à 10h avec la nouvelle équipe formée autour d'Elisabeth Borne et évidemment à son ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui faisait sa première rentrée politique et qui s'est rendu juste après à Conflans-Sainte-Honorine dans le collège où exerçait Samuel Paty. Pour son premier déplacement, il a rappelé son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Néanmoins, sa nomination continue de provoquer toujours autant de réactions. On les écoute avec Éléonore de Vulpière et on en débat ensuite.
La polémique ne faiblit pas. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale il y a 3 jours, Pap Ndiaye est l'objet de toutes les critiques, à droite comme à gauche. Une nomination incompréhensible pour Olivier Faure, le premier secrétaire national du Parti socialiste.
On connaît très bien les positions de Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans, qui nous a expliqué qu'il était en croisade contre l'indigénisme, contre le wokisme, contre l'intersectionnalité. Et voilà que dans ce gouvernement, vous avez celui qui a introduit la pensée woke en France, qui est maintenant ministre de l'Éducation.
Normalien, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Pap Ndiaye est spécialiste de l'histoire de la minorité noire aux États-Unis. Auteur de plusieurs ouvrages sur les Noirs américains, il publie en 2008 « La condition noire, essai sur une minorité française ». Il est devenu l'an dernier directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Un CV doublé de prises de position vertement combattues par le mouvement Reconquête, notamment par la voix de son vice-président exécutif, Guillaume Pelletier.
J'attends de lui, dans les prochaines heures, qu'il s'excuse.
Qu'il s'excuse ?
Oui, sur ses propos depuis 15 ans, qui vont faire tant de mal à nos enfants.
Quant à Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Éducation nationale et soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle, il a mis en garde ce lundi contre l'enterrement de la politique mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer depuis 5 ans.
Il n'y a pas plus sûre méthode pour désorienter une grande institution comme l'Éducation nationale que de la confier tour à tour à 2 ministres dont les philosophies de l'État s'opposeraient.
Une prise de fonction marquée par une levée de boucliers transpartisane et massive pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Avant de passer la parole à Maître Golnadel, peut-être un mot de Julien Drey sur cette mise en garde de Jean-Pierre Chevènement contre l'enterrement, entre guillemets, du bilan de Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien Drey ?
Ça m'inspire que Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme totalement respectable, n'a pas dû bien regarder quel était le bilan de M. Blanquer, parce que je pense que son bilan, justement, c'est ça qui explique qu'il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. M. Blanquer, il a mené une croisade sur le plan idéologique, mais sur le plan de l'Éducation nationale, vous allez regarder ce qui se passe avec Parcoursup, vous allez voir le bilan de la politique.
Le dédoublement des classes de CPCE1, ça compte
pas ? Non, le dédoublement, bon, mais moi, je vous parle de Parcoursup, je vous parle de ces rapprochements de matières qui font que plus personne, aucun élève n'y comprend rien aujourd'hui dans les filières qu'il faut le faire. Je vous parle de ce qui se passe même dans les établissements scolaires où on n'a jamais eu aussi peu de profs. Pourquoi les profs ne viennent plus ? Parce que ça marche pas. Et parce que les choses n'ont pas été faites comme il le fallait. Je vous parle pas des rythmes scolaires où on n'a pas avancé une seule seconde. C'est-à-dire qu'on est le pays encore où on enseigne les maths et la physique à 4h l'après-midi. Je vous parle pas du contenu des programmes où il faudra toujours m'expliquer pourquoi la théorie des ensembles...
Ça, c'est pas le ministre de l'Éducation, vous le savez très bien, c'est le Conseil national des programmes.
Oui, mais le ministre de l'Éducation nationale, il parle avec le Conseil des programmes. Il peut susciter un débat, il peut mettre en place toutes les réflexions. Claude Allègre l'avait fait. Ça lui avait valu une levée de bouclier de tous les éditeurs, mais il l'avait fait. En montrant comment, justement, sur le plan des mathématiques, c'était devenu une manière de sélectionner les élèves, puisque ce qu'on faisait en terminale équivalait à ce qu'on faisait en SPÉ, en mathématiques spéciales, de deuxième année. Bon, voilà. Donc, je pense que là, sur le bilan, moi, j'aurais aimé justement que dans cette campagne présidentielle, on ait un débat sur le projet éducatif et sur le bilan de la situation dans laquelle se trouve l'Éducation nationale. Alors, après, la question qui peut se poser, ça c'est vrai, c'est qu'on a l'arrivée d'une personnalité, M. Pap Ndiaye, qui n'est pas, je dirais, marquée par une connaissance profonde du système scolaire. C'était pas le cas de M. Blanquer, qui lui venait de la machine éducation nationale. Est-ce que ce regard neuf va apporter des changements, ou est-ce que justement il va être tétanisé par ce qu'il va découvrir? Parce que la réalité de l'administration de l'éducation nationale, c'est pas rien.
Avant de passer, Maître Golnadel, à ce que vous lui reprochez sur son supposé indigénisme, wokisme, que vous dénoncez, juste sur le fait que, comme le dit Julien Drey, il ne connaît pas la machine éducation nationale. Est-ce que c'est un handicap ou finalement
écoutez, ça peut être un atout ? On n'est pas obligé de nommer un agriculteur à l'agriculture. Voilà. Très sincèrement, ils ont des services, il peut avoir c'est un universitaire. Franchement, c'est pas ça que je lui reproche. Hein.
Oui. Justement, je pense que c'est dans le dispositif gouvernemental, le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère où il faut avoir une connaissance du système, parce que le temps d'apprendre, de trouver, de comprendre les méandres entre les différentes directions, la manière dont les choses se passent. je pense que vous y mettez 6 mois. Hein.
Alors, on fait juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 avec Isabelle Pépelot et on continue notre débat.
D'accord.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Drey et maître Gilles-William Golnadel. On s'intéresse à Papendiaï, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, dont la nomination, on l'a dit, a provoqué quelques réactions. On va surtout maintenant s'intéresser à ce qu'il a dit, ce qu'il a théorisé dans un certain nombre de ses ouvrages avec Thomas Chama. Et puis je vous passe la parole ensuite.
Les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'Éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières font aujourd'hui polémique. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un Afro-Américain tué par des policiers aux États-Unis, Papendiaï dresse un parallèle avec la situation française.
L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter.
8 mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance.
Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke.
À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises.
Le terme islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche.
Face aux attaques contre Papendiaï, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines, portées pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer.
Maître Golnadel, en quoi est-ce que cet historien, vous, qui a été nommé à l'Éducation nationale, vous pose question ?
Alors, d'abord, je voudrais ajouter à ce qui a été dit, il n'y a pas que ça. C'est un monsieur qui a participé à des camps de non-mixité, donc pour le dire autrement, à des camps interdits aux Blancs. Et c'est quelqu'un également qui considère que la France pratique un racisme structurel. Il faudrait le faire, et avec des violences policières.
Il dit qu'il n'y a pas de racisme d'État.
Il dit qu'il y a un racisme structurel. Donc il faudrait le savoir. Il faut que les ONG qui défendent les migrants le fassent savoir aux migrants qui veulent arriver, qui demandent le droit d'asile, que la France est un pays raciste structurellement, n'est-ce pas, et que les policiers sont des racistes violents. Ayant dit cela, moi, très sincèrement, c'est un universitaire distingué. Mm-hmm. C'est quelqu'un de très intelligent et de très courtois. Moi, dans le passé, j'ai apprécié certains de ses articles sur les États-Unis. Sauf que j'ai vu son évolution, ou plutôt son involution. La réalité, c'est qu'il a été contaminé aux États-Unis par le racialisme. C'est quelqu'un qui soutient, qui était contre le fait que le dictionnaire renonce au mot « race ». Parce qu'il soutient. Et ce racialisme, il est évidemment dans son esprit pour lutter contre le racisme anti-noir, comme s'il n'y avait qu'un seul racisme. Donc moi, ces positions-là, je ne les connais que trop. J'en ai pris mon parti, j'en fais pas une maladie. Mais quand je vois que le président de la République ou sa première ministre décide, à la place de M. Blanquer, que personnellement, quel que soit son bilan, j'apprécie particulièrement parce qu'il a osé, par exemple, parler d'islamo-gauchisme, et que son successeur prend exactement la position contraire, vous comprenez, en niant même...
Il l'a fait il y a plusieurs mois, oui. C'est pas...
Mais alors, ça change. Je ne vous dis pas qu'il a dit ça hier matin à 9h. Mmh. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ces positions-là me heurtent. Et il y a encore, pardon, je termine
après,
là-dessus.
On laissera parler.
En l'espace de 48 heures, j'ai eu un débat avec mon sympathique contradicteur vendredi. En l'espace de 48 heures, on est passé du déni à pratiquement l'interdit, parce que le déni étant impossible. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que ceux qui sont contre cette position-là, c'est que l'extrême droite. Hein. Il peut arriver d'ailleurs que Zemmour et Marine Le Pen aient raison, mais ça ne serait que l'extrême droite. J'observe, ils ne le disent pas, mais que Mélenchon et Rousseau l'applaudissent à deux mains. monsieur. Donc ça veut pas dire grand-chose. Les positions des uns... Non, mais ça veut dire...
Ça fait beaucoup de choses différentes.
Pardon ?
Ça fait beaucoup de choses différentes. On va juste laisser Julien Drey peut-être vous répondre sur un des points que vous avez évoqué.
Oui, mais je voudrais revenir sur la notion d'interdit. Ouais,
on va, pas de problème. On reviendra sur la notion d'interdit. Julien Drey.
On me censure.
Oui, on le voit d'ailleurs.
Oui, mais c'est... Ouais.
Vous avez une tête d'un... Oui.
Je me censure. Je prends sur moi.
Alors, plusieurs choses. Alors, c'est parce que là, il y a... D'abord, moi j'ai regardé, parce que vendredi soir, j'ai avoué d'ailleurs honnêtement que je ne le connaissais pas, j'avais lu un livre, bon, et je n'ai pas aimé la charge.
La condition noire peut-être.
Voilà, j'ai pas aimé la charge a priori, les jugements négatifs qui s'accumulaient de la part contre lui en faisant un monstre. Bon, un monstre indigéniste, wokiste, etc. et tout. Je note au passage, c'est juste une parenthèse, qu'Olivier Faure devrait faire attention, parce qu'il l'accuse d'être l'instigateur de la pensée wok en France, ce qui n'est pas vrai du tout. Voilà. Donc il faudrait qu'il fasse attention, il faut savoir de quel côté il se situe, mais c'est vrai qu'avec Olivier Faure, on a du mal. Bon, je ferme la parenthèse. Moi, j'ai lu après, et je vais vous dire mon sentiment, c'est que c'est un universitaire à la pensée complexe, et elle est tellement complexe que dans le monde politique actuel, il va avoir énormément de mal. Parce que dans le monde politique actuel, c'est binaire, c'est blanc ou c'est noir, c'est le cas de le dire. Voilà, et donc dès qu'il est... Pourquoi ? Je vais vous prendre trois exemples. L'affaire du CRAN et la participation. Mm-hmm. Il dit oui, j'ai. Il nie pas, il a été au conseil scientifique du CRAN. Le conseil représentatif des. Je ne me rappelle plus le nom, qui représentait les. Voilà, les personnes noires qui voulaient créer les conditions d'une sorte de lobby pour pouvoir mieux défendre la condition des noirs et lutter contre le racisme systémique. Voilà. Il dit il est dans le conseil d'administration, il s'en va et il dit ces réunions non mixtes, finalement, elles ne sont pas utiles. Il le dit comme ça. Il dit pas j'ai pas été, ils sont pas utiles, parce qu'il faut au contraire avoir des réunions. Tout le monde vient pour être plus efficace dans le combat. Vous voyez donc la difficulté.
Il a changé ça.
Voilà. Sur les races, qu'est-ce qu'il dit aussi? Parce que vendredi soir, j'ai polémiqué avec le présentateur qui me disait, mais il a dit, il a employé le mot race. Il dit, oui, je suis contre qu'on ait supprimé le mot race parce que c'est pas en supprimant le mot qu'on renforcera le combat antiraciste. Donc il reprend pas son compte la notion de race. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Sur les dernières déclarations qu'on voit, je vais vous dire la vérité, c'est que moi j'attends. Vous allez me dire que je suis peut-être un peu prudent. J'attends de voir comment il va expliquer tout ça. Je vois bien la complexité de son cheminement. Je veux pas lui faire de procès, mais c'est vrai que il est proche de la ligne jaune, si vous me permettez. Parce que il me dit par exemple qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les universités françaises un courant islamo-gauchiste ou un courant wokiste. On ne doit pas fréquenter les mêmes facultés.
Alors, il dit que c'est pas une réalité dans les universités françaises.
Alors j'allais dire on ne doit pas fréquenter les mêmes universités. C'est vrai que je fréquente plus, mais je fréquente un certain nombre d'universitaires qui me disent eux-mêmes, à commencer par Gilles Kepel, qui est pour moi une référence, qui me disent eux-mêmes quand même qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les universités qui sont problématiques et qui suscitent, qui doivent susciter un combat idéologique. Donc il est dans cette complexité-là où il va falloir que il pourra pas, je dirais, être dans cette nuance tellement nuancée qu'à la fin on sait plus exactement où il est. Voilà. Et alors et donc il va falloir quand même aussi qu'il s'occupe de l'éducation nationale parce que ce qui est ennuyeux, c'est qu'il commence par un des, je veux dire, avoir besoin de se justifier sur un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il va réformer le bac, s'il ne va pas réformer le bac, s'il va réformer le contenu de l'enseignement pour qu'il soit efficace. Mmh. La question des effectifs est la question la plus importante. C'est est-ce qu'il va trouver des profs à la rentrée? Absolument. Parce que c'est quand même ça auquel il va falloir répondre.
Alors, il ne s'est pas justifié pour l'instant. Il s'est juste rendu à Conflans-Sainte-Honorine pour rendre hommage à Samuel Paty, vraiment, encore une fois, en rappelant son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Golnadel, sur la notion d'interdit?
Je reconnais bien volontiers et sans barguigner que c'est un racialiste modéré. Il n'y a pas de doute, c'est pas un excité, c'est pas un agressif, mais pour autant, je considère que ses positions sont intellectuellement détestables. Je considère que c'est infamant de considérer que la France, si accueillante, sans doute à l'excès, pratique le racisme structurel, très sincèrement. Et quelqu'un qui dit que Madame Assa Traoré a un discours rassembleur, pardon, ne peut pas être totalement considéré comme lui-même rassembleur. C'est pas possible. C'est pas possible. Après avoir dit ce qu'il a dit sur la police française, ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul homme, fût-il distingué. Je veux ajouter quelque chose.
La notion d'interdit, peut-être.
Sur la notion d'interdit. Parce qu'en 48 heures, comme le déni commençait à être impossible au regard de toutes ces déclarations et même de toutes ces actions. Alors on a commencé à dire c'est l'extrême droite. Monsieur Beaune a expliqué que ceux qui s'en prenaient à lui étaient xénophobes. Très bien. SOS Racisme a fait encore mieux en disant que c'était la fachosphère qui se déchaînait et demandait même à ce qu'on dénonce d'ores et déjà à l'avance les discours qui viendraient à surgir sur les réseaux sociaux. Autrement dit, la réalité, c'est qu'alors, la vérité, c'est qu'on ne pourrait pas le critiquer parce qu'il est noir. Je ne sache pas que quelqu'un ait osé dire que si on critiquait Zemmour, c'est qu'on était antisémite, vous voyez. Moi, la seule chose que je vois, la seule chose dont je sois sûr, c'est que d'interdire à des Blancs de critiquer librement des intellectuels noirs qui participent à des réunions interdite aux Blancs, ça, je suis bien sûr que c'est raciste.
Non, mais là, vous êtes en train de franchir le Rubicon, comme on dit. Ouais. Parce qu'il a... J'ai regardé, parce que moi, quand vous dites des choses, quand on me dit des choses, je prends le temps de vérifier. J'ai regardé ses déclarations, il ne fait pas l'apologie des réunions non mixtes. Il n'y a aucune de ses déclarations où il dit qu'il faut faire des réunions non mixtes. Il dit l'inverse. Il dit que ces réunions-là peuvent... Vous pouvez retrouver les textes. J'ai fait l'erreur. Je reconnais tout à l'heure en partant, parce que je les avais mis de côté, je les ai oubliés.
C'est regrettable.
Mais je prends date. Oui. Comme on a un autre rendez-vous, je reviendrai avec les déclarations et je vous les donnerai. Ouais. Voilà. Ça, comme celle sur la race, etc. J'apprends qu'il a dit que Assa Traoré a eu un discours rassembleur. Celle-là, je ne l'avais pas encore vue.
Ah ouais.
Mais bon, je suppose qu'on va en avoir droit comme ça un certain nombre de. Les unes après les autres. Est-ce que j'ai dit que ça a été bien ?
Non, mais
on va pas, faire Jules Ferry,
Méfiez-vous. Revenons à nos moutons.
Alors après, il y a un débat sur cette histoire. Si vous me permettez, je voulais revenir. Cette histoire de structurel ou de systémique, parce que franchement, vous connaissez l'expression sur, je vais pas l'employer à la télévision parce qu'il y a des oreilles chastes, mais
et à la radio encore moins.
Et à la radio. Mais franchement, la question est posée. Est-ce qu'il y a des violences policières ? Oui. Est-ce que c'est un système ? Non. Voilà. Est-ce que c'est structurel ? Non, c'est pas structurel. Mais ça n'empêche qu'il y a des violences policières. Donc, et d'ailleurs, lui-même, il a des expressions qui sont ambiguës. Parce que c'est un universitaire. Et quand vous connaissez ces universitaires qui travaillent là-dessus, ils sont prudents, ils font attention, ils soupèsent, ils pèsent, etc. Et tout. Donc, on va voir la réalité des choses. Maintenant, c'est sur le plan politique sur lequel je voudrais conclure. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde la composition du gouvernement, il y a une inflexion politique. Il y a une inflexion politique nette. Je pense d'ailleurs qu'il y en a certains qui doivent l'avoir mauvaise, si vous me permettez, à gauche et surtout au printemps républicain aussi. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont roulé pour un candidat qui a changé. Il y a une inflexion, c'est très net. Le choix qui a été fait, alors c'est un choix certainement aussi en fonction de la lecture des résultats, d'une volonté de déstabilisation d'une partie de la gauche ou de récupérer les loulous des quartiers, comme je l'ai entendu dire par certains responsables de La République En Marche. Là, il y a une inflexion très nette. Et si vous voulez, mon sentiment, c'est que le président de la République, sur le fond, qui a été formé par des grandes écoles, il est plus proche de cela que de la tradition républicaine traditionnelle. Lui, il considère que le système anglo-saxon n'a pas toutes les tares qu'on veut bien lui donner. Il considère aussi que le système républicain a aussi ses difficultés. Donc le débat va forcément avoir lieu, mais je comprends que l'honnêteté intellectuelle consiste à dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose.
Un dernier mot là-dessus, après on avance, on parle de...
Factuellement, je suis obligé de contredire Julien. Non seulement il n'a pas totalement critiqué les réunions interdites aux Blancs, il a été chèvre et chou, et il a participé, c'est pire encore.
C'est pas un crime, maître.
Mais qui vous dit que... ça ne sert peut-être pas à un crime, mais vous comprenez que ça ne me le rend pas forcément sympathique politiquement.
Non, mais il a participé au conseil scientifique du CRAN au départ,
non,
et
je
il
vous
a
parle
quitté
pas
ce conseil scientifique.
De...
C'est pour ça qu'il a participé à une réunion. Parce que
il était invité par syndicat Sud Éducation, avec lequel, j'imagine maintenant, il collaborera harmonieusement. Là où je rejoins Julien Drey, c'est qu'effectivement, c'est un coup politique pour piquer un peu de voix à la gauche unie sans se soucier de la réaction de la droite stupidement désunie. Et que d'autre part, je suis bien d'accord que quelqu'un qui considère que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, qu'il n'y a pas de culture française, que c'est stupide de demander dans les banlieues à un Blanc un rapport sur les banlieues, est sans doute plus proche de M. Ngueï que de M. Blanquer.
Bon, là, on a eu de la totale.
Voilà, c'est la totale. Le dernier mot, Julien.
La France a commis des crimes en Algérie,
Contre l'humanité.
Bon, non, contre pas contre l'humanité, l'humanité mais contre
ouais, la oui, mais c'est, ça change tout.
Oui, d'accord.
Mais ça change tout.
Oui, je sais.
Dans la queue le venin.
Et il faut aussi savoir faire la part des choses. Maintenant, je pense que les semaines à venir vont être nécessaires pour le ministre de l'Éducation nationale pour clarifier les choses, parce qu'il rentre dans une autre sphère, sur le fond. Il rentre dans une sphère qui est directement politique et où il ne pourra pas être simplement dans la nuance et dans la prise en considération des différentes opinions pour faire une sorte de synthèse, ce qui est quand même le rôle en général des universitaires. Et donc on va falloir le juger d'abord sur sa politique en tant que ministre de l'Éducation nationale et après qu'il clarifie les choses. Mais il y a une chose sur laquelle, par contre, je suis en total désaccord, je le dis ici ce soir, ce n'est pas vrai que dans les universités, il n'y a pas aujourd'hui une pression très forte de l'idéologie anglo-saxonne et qui fait régner parfois dans un certain nombre de campus non pas des formes de terreur, mais des formes de dictature intellectuelle.
Alors, affaire à suivre, et on aura l'occasion d'y revenir dans Punchline.